arrêtez cette émission qui est insupportable et arrêtez de nous mettre petit con à toutes les émissions. C'est insupportable. Salut!
Réussis ta vie, sois poète ou sois paysan. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, évidemment, réussis ta vie. C'est chier, Daniel, j'ai passé tout l'après-midi avec cette connerie dans la tête. Tu te rends pas compte? C'est polluant.
Alors, c'est un camarade du Parti communiste du 5e arrondissement de Paris. C'est juste pour faire passer l'info que depuis 2 semaines, au restaurant de la Tour d'Argent, donc au lieu du luxe français, aux 2 rues du Cardinal Lemoine, les travailleurs sans papier sont en grève pour obtenir donc leur régularisation. Ils sont 7. Et donc ça veut dire que même dans les restaurants où le menu enfant est à 260 euros, dans les cuisines, en fait, c'est les travailleurs qui font la plonge. C'est les travailleurs sans papier qui font la plonge. Hein, et donc derrière les vitrines de notre société, c'est bien eux qui font tourner la machine dans toute l'île de France. Alors vous pouvez venir exprimer votre solidarité, ils en ont besoin, ils ont besoin d'argent, de soutien. Et donc vous pouvez vous rendre aux 2 rues du Cardinal Lemoine, ils sont dans un petit local juste à côté du restaurant. Et il faut les soutenir pour qu'ils puissent mener le mouvement jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la régularisation des 7 travailleurs en grève. Merci.
Bonjour Daniel. Et bonjour toute l'équipe. Ce matin, lundi 29 septembre, j'ai entendu à France Inter un commentariste du côté des 8 heures du matin dire que l'attitude du gouvernement nord-américain, c'était une preuve de la démocratie. En quoi la démocratie est un gage pour ceux qui ont fait une escroquerie? En quoi la démocratie sert à couvrir ce type d'escroquerie? Je ne les comprends pas, à moins qu'il ne s'agisse d'une manipulation du langage. Hier, M. Ernest Antoine Cellière disait qu'il s'agissait d'un accident. Un accident construit alors qu'il s'agissait d'un produit financier proposé à des clients. Un accident qui a demandé des semaines de formation pour les agents bancaires pour vendre un produit dangereux pour la stabilité des clients. Un accident, dit-il, qui a demandé des réunions pour le choix des slogans, de l'impression des prospectus et des affiches, et d'une campagne publicitaire pour inciter les clients à faire confiance dans ce splendide crédit. C'est ça que c'est un accident? Est-ce qu'il ignorait que la plus grande majorité de ses clients n'avait pas les reins suffisamment solides? Est-ce que l'un d'entre nous aurait été un bon vendeur et bien convaincu de l'excellence de ses produits financiers? Il faudrait qu'on commence à parler français et il faut le dire à ces commentaristes de France Inter du matin que la démocratie, c'est un mot qui a une valeur. Et pas parce qu'il a une valeur, c'est une marchandise. La démocratie ne peut pas servir à couvrir l'escroquerie. Merci.
Alors bonjour à tous les AMG. Au moment où Sarkozy semble découvrir les méfaits de la finance devenue folle et ne fonctionnant que pour elle-même, bien loin de son objectif de financement de l'économie, au moment où Airblabla, comme le surnomme Madame Merkel, tape sur les actionnaires et les parachutes dorés, il est sans doute bon de revenir sur une mesure passée inaperçue qui est incluse dans le fameux paquet fiscal voté à toute hâte dès son arrivée aux commandes. Cette mesure, c'est celle qui consiste à réduire l'imposition des revenus des actionnaires aux antipodes du discours de Toulon. Le mécanisme adopté permet aux actionnaires les plus riches d'opter pour un avoir fiscal à hauteur de 18% seulement. En clair, ça veut tout simplement dire que ceux qui sont dans les tranches d'impôts les plus hautes ne paieront plus au maximum que 18% d'impôts sur les dividendes au lieu des 30 à 40% qu'ils pouvaient payer fort justement au préalable. Coût pour nos caisses déjà vidées, un manque à gagner de 500 millions d'euros, l'équivalent de l'économie faite sur la suppression des 23 900 postes de la fonction publique supprimés en 2008. Alors oui, amis AMG, oui à l'Union nationale prônée par Fignon, mais pour déloger la bande des 40 voleurs qui opèrent à la tête de l'État. Bonne journée à tous.
Allô Daniel, bonsoir à tout le monde, à toute l'équipe. Voilà, je vous appelle, je voulais vous raconter un petit peu ma semaine là. Professionnellement, j'ai dû faire de l'intérim là. Enfin, je suis en train de faire l'intérim et je me suis retrouvé dans une usine. Et donc une usine quoi de montage, bref. Et donc je pouvais plus écouter là-bas si j'y suis, donc je l'ai podcasté et je l'ai foutu dans mon mon baladeur, là, comme les hommes modernes. Et du coup, j'ai écouté là-bas, si j'y suis, à l'usine, quoi, parce que j'ai le droit là-bas. On a le droit d'avoir un Walkman à l'usine, c'est super. Et je peux t'assurer que, écoutez, là-bas, si j'y suis dans une usine, ça prend une autre dimension. J'avais les frissons en écoutant mercredi Ruffin, là, avec plaisir de rentendre cette émission. Et ça fait mal aussi, ça fait vachement mal. T'es au milieu de stade, d'entreprise, là, et tu te dis, mais... S'ils pouvaient tous entendre ce qu'il est en train de raconter, là, si ça pouvait être diffusé dans des haut-parleurs dans l'usine, là. Enfin, voilà. J'avais aussi Chomsky qui m'emmenait dans la tête. Enfin, bref, c'est assez bon. Il faudrait conseiller ça au syndicat. Diffuser là-bas si j'y suis dans les usines. Voilà un bon truc à faire. Allez, je vous laisse. Encore bravo et à bientôt. C'était Cyril d'Ardèche. Ciao.
Ouais, écoutez, là-bas, si j'y suis en bossant à l'usine, c'est bien. Mais aujourd'hui, ça va être possible d'écouter là-bas, si j'y suis, dans une centrale nucléaire. Oui, ami qui travaillait dans les centrales nucléaires, cette émission vous est entièrement dédiée, cette heure vous est entièrement dédiée. Antoine Chaos, en personne, est descendu à Tricastin. Il a entendu parler cet été d'incidents... dans ce coin-là. Et alors, il est très attaché aux côtes du Tricastin. Vous savez, c'est un petit vin délicieux. Et Chao s'est dit, oulala, mais est-ce que je vais continuer de déguster le Tricastin ? Donc, il est allé voir les choses d'un peu plus près et il nous a rapporté l'heure que nous allons passer ensemble aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, bienvenue dans la centrale.
Je viens d'entendre ça au flash de minuit là sur France Inter, dans la nuit de dimanche à lundi. Il y a la police qui a appréhendé un mec qui portait une arme près de la prison de Grenoble, parce qu'il y a un prisonnier qui a été abattu dans la cour. Alors... Puis un autre a été blessé. Et donc les prisonniers se sont révoltés et ils se sont fait tabasser la gueule, bien sûr. La ministre se déplace et tout. Alors j'imaginais le dialogue, là. Les flics qui apprennent le mec qui porte une arme. T'as une arme là, bon, tu sais que normalement, on t'a pas le droit de tuer des prisonniers dans un cours comme ça. Enfin non, je te dis ça. Quoi, vous allez... Mais non, on va pas t'emmerder, mais je veux dire, t'aurais pu avoir des ennuis, parce que normalement, on n'a pas le droit de les tuer. Je veux dire, bon, ça va, t'as le port d'armes en règle, tout. Non, mais on va pas t'emmerder, de toute façon, les mecs qui sont là-bas, c'est la racaille, hein, c'est les antisociaux et tout. Ça se trouve, c'est un mec qui allait balancer des trucs encore. Non, mais je dis, juste fais gaffe, quoi, normalement, t'as pas le droit, quoi. Je veux dire, un avocat un peu pointilleux, comme ça, il peut t'emmerder, quoi. Non, mais de toute façon, il ne gagnera pas, mais bon, tu peux être emmerdé, quoi. Bon, allez, ça va, circule. L'autre, tu l'as loupé, hein. J'espère que les chirurgiens vont bien s'en occuper. S'ils devaient révéler des trucs comme ça, c'est embêtant, quand même. Bon, allez, bon, circule, hein. Non, t'inquiète pas, on va aller retabasser la gueule aux autres, ça va rentrer dans l'ordre. Allez, rentre chez toi.
Tout ce que vous avez voulu savoir sur le NPA, Stéphane viendra vous le dévoiler au repère des Amis de la Basse J'y suis de Limoges, ce mercredi 1er octobre à partir de 18h30 au Woodstock Boogie Bar, 18 avenue Montjovi. Venez nombreux pour en débattre avec lui.
On prend au SMIC, dans le nucléaire, on travaille en 3-8. Quand vous avez des équipes de... qui interviennent en salle des machines, Alstom, ils font de la mécanique et sur l'équipe de 5 personnes qu'il y a, il n'y a aucun mécanicien. Il y a un boulanger, 2 pâtissiers et un chef d'équipe.
Les prestataires, on va dire quelque part qu'on est des exécutants. On exécute tout simplement.
Mais alors c'est vous avez voyagé, vous faites partie de ceux qu'on appelle les nomades du nucléaire.
Exactement, oui, c'est ça.
Pour les habitants, il y a des consignes de sécurité.
On a des procédures, alors, oui. Pour les crocodiles, oui. Enfin, ce sont des procédures de confinement, de la même manière que pour les individus humains.
L'acceptabilité du risque nucléaire, donc est un compromis avec l'ensemble de la population.
Ben, malheureusement, c'est au détriment des gens qui travaillent sur ces installations, les hommes et les femmes. Et tant qu'on ne viendra pas voir dans quelles conditions de travail se font les interventions, on aura de graves incidents, quoi. Il y aura des accidents plus graves que ceux qu'il y a actuellement, quoi. L'industrie nucléaire ne va pas si bien qu'on veut nous faire croire.
Salut, c'est Daniel Mermez, c'est la base et j'y suis avec Antoine Chao. Il ne s'est rien passé à Tricastin. Parole de crocodile.
Flight number 2, arriving from New York.
Nous sommes le 24 juillet, madame, monsieur, bonjour, merci d'être avec nous. Voici les titres de ce journal. Les riverains de la centrale nucléaire du Tricastin inquiets après le nouvel incident d'hier. Une centaine de salariés légèrement irradiés par une poussière radioactive, sans risque pour leur santé, selon les spécialistes.
Bonsoir, l'hôtel Le Tricastin.
Oui.
Oui, je cherche une chambre sur Pierre Latte.
C'est bon.
Vous avez de la place?
Oui.
D'accord. Je voulais un petit renseignement supplémentaire. Bon, vous n'allez pas me trouver très courageux, mais... je voulais savoir si vous n'étiez pas trop près de du site nucléaire.
Pierre Latte, c'est à... Pourquoi, vous avez peur des radiations?
Bah écoutez, je sais qu'en ce moment, notre EDF national est en train de faire comme ça une OPA en Angleterre, etc. Mais bon, je sais qu'il y a aussi beaucoup de problèmes sur le site de Pierre Latte.
Il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est qu'il y a les Verts qui inventent n'importe quoi. Enfin, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que j'ai tous les ingénieurs.
Et donc après, vous avez tout ce qu'il faut en cas d'alerte, des pastilles d'iode, etc. Vous êtes équipé pour les clients.
Mais je vous assure, monsieur, que vous risquez absolument rien, qu'il n'y a jamais eu de problème à Pierre Latte. Hein. C'est tout de l'intoxication.
De l'intoxication.
De l'intoxication. Il y avait des Russes, que Areva vend des centrales aux Russes. Pour leur faire visiter le site, ils ont une combinaison, vous savez. Ils ont un compteur Geiger sur la combinaison. Et ils passent sous une douche pour enlever les particules. Bon. Et quand le compteur Geiger dépasse un certain nombre d'irradiations, au lieu de rester 10 minutes, il reste 20 minutes sous la douche.
Mmh.
Et là, il y a eu les 40 personnes qui ont été irradiées un peu plus. Donc, ils sont restés 20 minutes pour ne pas avoir de problème.
Les Russes ont été irradiés.
Enfin, les Russes qui étaient là, quoi, les 40, ils n'ont pas été irradiés, vous avez bien compris. Ils ont le compteur Geiger qui a montré qu'il fallait qu'ils restent 20 minutes sous la douche décontaminante au lieu de 10 minutes.
D'accord.
Pour avoir aucun problème.
Mais ils ont acheté quand même.
Les journalistes en ont fait 40 irradiés.
Ah.
Vous avez compris le truc? Voilà. Ils rigolaient, ils disaient, mais c'est pas possible d'être aussi con.
Les Russes rigolaient?
Non, les ingénieurs français qui étaient là aussi, ils rigolaient. Les Russes, ils disaient, mais nous, en Russie, bon là, peut-être c'est pas bien. On prend jamais des protections comme ça, nous, en Russie.
Oui, en même temps, en Russie,
ils en ont vu d'autres.
Ils ont
vu Tchernobyl quand même. Hein, voilà. Mais n'ayez crainte, je crois, monsieur, d'accord, que vous ne risquez absolument rien.
Mais
l'intoxication. Il n'y a aucun problème sur les réacteurs. Hein.
Ah bon?
Ouais.
Les deux barres de combustible?
Il n'y a rien du tout.
Tout ça, c'est rien.
Je parlais parce qu'avant-hier, il y avait un article dans les journaux, ils me disaient, attendez. Rien du tout.
D'accord.
Rien du tout.
Bon, bah, je vous remercie, je réfléchis, je vous rappelle.
Vous réfléchissez, monsieur.
Au revoir.
Et oui, voilà, BHL va en Géorgie en jet privé. Nous, on va en train à Tricastin. Et qu'est-ce qui se passe à Tricastin? Rien. Absolument rien. Il ne s'est rien passé. Rien de grave, en tout cas. C'est les médias qui nous intoxiquent et qui nous ont intoxiqués tout au cours de l'été. Les médias, voilà l'ennemi. Les médias donnent une mauvaise image. Ce qui compte, c'est l'image. Et il faut changer l'image. Quand elle est mauvaise, il faut la blanchir. Par exemple, vous fabriquez des ballons cousus par des mômes en Afghanistan, et bien vous faites dans l'humanitaire, vous faites dans le caritatif, ou bien vous pouvez maintenant verdir votre image, c'est-à-dire vous faites dans l'écolo, dans le Nicolas Hulot, dans le Ushuaïa, dans le développement durable. C'est un très bon créneau, mais tout ça est affaire d'image. Ce qui compte, c'est la représentation, et c'est ça la société de spectacle. C'est là représentation. Alors, à qui faire confiance pour savoir ce qui s'est réellement passé cet été à Tricastin, ce qui continue de se passer, ce qui se passe depuis quand même pas mal d'années en matière de nucléaire. Vous savez bien sûr que les nuages, c'est comme les effondrements financiers, ça s'arrête à nos frontières. Mais enfin, cet été, il y a eu quand même quelques événements en matière de nucléaire. À la Socaterie arriva Bollène-Vaucluse, grave fuite d'uranium le 7 juillet, c'est pour ça que nous sommes là. À la FBC arriva à Romans-sur-Isère, Drôme, découverte le 18 juillet de contamination par une canalisation rompue depuis des années. À la centrale nucléaire EDF de Tricastin, Drôme, 100 salariés contaminés le 23 juillet, donc quelques jours plus tard, toujours à Tricastin. À la centrale de Saint-Alban-Isère, 15 salariés contaminé le 20 juillet. À nouveau, à la Socaterie Areva, selon les aveux le 6 août, de rejets illégaux depuis des semaines de carbone 14 radioactif. À la Comurex Areva, Pierre Ladrôme, aveu le 21 août de contamination par une canalisation rompue, elle aussi depuis des années. Ça fait quand même un petit peu beaucoup, même si ce sont les gens de sortir du nucléaire qui nous disent tout ça. Mais vous leur faites assez confiance. Et oui, ce qui s'est passé cet été en juillet à Tricastin a suscité un sondage, le Monde IFOP. Alors, sondage, toutes les réserves d'usage doivent être faites. Mais à la question, à qui faites-vous confiance pour vous informer en cas d'incident nucléaire ? Les Françaises et les Français ont répondu d'abord aux associations de protection de l'environnement à 79%. Ensuite, à l'ASN, autorité de sûreté nucléaire à 62%. Ensuite, aux élus locaux, quand même, 55%. Et puis ensuite, donc en dessous de 50%, à EDF, 46%. Aux médias, 40%. Pas de quoi pavoiser, les gars. À Areva, 32%. Et au gouvernement, 30%. Il y aurait comme une sorte de manque de confiance concernant le nucléaire. À qui faire confiance pour fonder une opinion, sachant, et ça c'est vraiment inquiétant, qu'on va vers la privatisation du nucléaire dans notre bel hexagone. Voilà ce qui nous intéresse jusqu'à 16h, là-bas c'est j'y suis.
Président, je sais que tu le sais, mais je te le redis, comme ça c'est fait. On peut se parler. Il faut à peu près 50 ans pour bien refroidir complètement. Un réacteur de taille moyenne d'une bonne centrale, genre comme les tiennes. Enfin, les nôtres, quoi. Si on stoppait le nucléaire, ils hurlent tous, et l'armement, que va-t-on faire de nos savants ?
Ah bah oui, ça c'est un problème.
Tu leur réponds, vous êtes tarés, vos centrales vont exploser, cancer de la thyroïde. Beaucoup qui pensent déjà comme toi se réveilleront et te diront. L'électricité va manquer, là c'est à toi de répliquer. Alors là tu sors ton joker, tu vas dire vraiment tout ce que t'as. Les éoliennes, justement, ça fait du courant gratuitement. Pas de soucis, pas de calcaire. Abandonnons le nucléaire. Fermons les centrales pour de bon, pour nos enfants. C'était pas bon et perdons une fois pour toutes la course à l'armement et toute la terre nous criera victoire. On entrera dans l'histoire. À nous la gloire. Peace and love, mon président.
Un quatrième incident en seulement 15 jours pour la filière nucléaire française. Ça commence à faire beaucoup. Et ça s'est encore passé à la centrale nucléaire du Tricastin dans la Drôme hier. 100 salariés ont été légèrement irradiés par une poussière radioactive. Incident classé niveau 0 par l'autorité de sûreté nucléaire. Il n'y aurait aucun risque pour leur santé. Mais sur place, dans la population, c'est l'inquiétude. Myriam Metaoui.
Une centaine d'employés a été touchée par un nuage de poussière radioactive. L'incident s'est produit lors de l'ouverture d'une vanne dans l'enceinte du bâtiment du réacteur numéro 4, alors que le combustible avait été retiré du réacteur pour des travaux de maintenance. La contamination s'est déroulée alors qu'une opération portes ouvertes était organisée sur le site pour rassurer les riverains. Le 7 juillet, une fuite radioactive dans une cuve de l'usine Socatri spécialisée dans les déchets avait entraîné le limogeage de son directeur. L'incident d'hier a été classé niveau 0 par l'autorité de sûreté du nucléaire. Chaque année, près de 800 incidents classés niveau 0 ont lieu en France, mais c'est la première fois qu'un aussi grand nombre de personnels est contaminé.
Alors nous sommes à Pierrelatte, voilà une petite bourgade fort coquette et sympathique avec les belles petites rues refaites et pavées du centre-ville. Du mobilier municipal refait, des décorations dans les rues, donc il y a dû y avoir des fêtes dernièrement. Seule ombre au tableau, c'est justement l'ombre des cheminées de la centrale qui sont situées à quelques kilomètres d'ici, sur le site du Tricastin.
Et il y a beaucoup de gens ici qui travaillent sur le site du Tricastin, non ?
Il y en a, mais c'est vrai qu'à 10 ans, on cherchait des bonhommes pour. Voilà.
Et vous, vous n'y travaillez plus là maintenant ?
J'ai travaillé il y a 10 ans, j'ai fait 8 ans de déplacement. Je faisais toutes les nucléaires de France. Hein.
Sur un poste précis ou sur une tâche précise avec une spécialisation ?
Non, un peu dans divers métiers, un petit peu dans la peinture ou dans la décontamination. Voilà, dans la décontamination ou un petit peu dans la maçonnerie. Donc, comme je suis un petit peu intérimaire, donc je suis un petit peu polyvalent à tout corps de métier. Voilà, je jongle un petit peu avec ce qui vient, quoi.
Mais que dans le nucléaire pendant 10 ans ?
Voilà, que dans le nucléaire, ouais. Spécialement que dans le nucléaire.
Et ça paye bien le nucléaire par rapport à d'autres corps de métier ?
Ça dépend parce que, bon, c'est à nous de négocier notre horaire, quoi. Je veux dire, eux, ils vous proposent... Voilà.
Mais vous avez travaillé dans les zones à risque qu'on appelle sous rayonnement ionisant ?
Oui, tout à fait. Ouais. Sous rayonnement ionisant radioactif, ouais. Sans prime de risque. Sans prime de risque. Et de toute façon, on ne pouvait rien dire, quoi.
Mais pourquoi vous ne pouvez rien dire ?
Bah, de toute façon, si on conteste, ça ne change à rien, quoi. Voilà, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est-à-dire qu'on travaille dans leur usine, c'est comme si c'était leur maison pour eux, quoi. Donc ils font, on va pas dire à peu près tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils font vraiment tout ce qu'ils veulent.
Les prestataires, quoi.
Non, EDF.
Ah.
Voilà, c'est différent. Les prestataires, on va dire quelque part qu'on est des exécutants. On exécute tout simplement.
Mais alors, si vous avez voyagé, vous faites partie de ceux qu'on appelle les nomades du nucléaire.
Exactement, oui, c'est ça. Exactement, ouais. J'ai fait ça pendant 8 ans. Je connais à peu près toutes les ficelles du nucléaire, toutes les schmilbliques quand il y a un problème. Voilà.
Et vous avez vécu comme ça des situations difficiles ?
Ah oui. Bah, il y a eu des fuites.
Des contaminations ?
Des contaminations, ouais, bien sûr. Il y en a eu des contaminations, mais c'est jamais EDF, c'est toujours la faute des prestataires.
Et vous avez jamais craint pour votre santé ?
Tous les 6 mois, on avait droit à la visite, quoi.
Ah, tous les 6 mois, une visite ?
Tous les 6 mois. Ouais. Maintenant, c'est tous les 1 an, parce que je sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais avant, c'était tous les 6 mois. Donc, prise de sang, test d'urine, pour avoir des preuves comme quoi que son bonhomme a été en bonne santé, quoi.
Parce qu'après, il y a une histoire de dosimétrie. Non, on ne peut pas dépasser une certaine dosimétrie. Si vous dépassez la dose, vous êtes au chômage.
Avant, oui, ça se faisait. C'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup d'abus parce que les patrons prenaient et les envoyaient au charbon dans les zones rouges, là, où on peut pas moins de 20 millisieverts par minute. C'est énorme, quand même.
20 millisieverts par minute.
Ah oui. Mais je vous parle vraiment dans les endroits vraiment exposés, quoi. Et puis, dès qu'il arrivait à un taux à la normale, ben, il était dehors sans même savoir le pourquoi.
Et vous, personnellement, alors vous avez été contaminé des fois ou
ça m'est arrivé,
exposé, irradié ?
Ça m'est arrivé, ouais. Exposé, irradié, contaminé, oui, bien sûr. On me donnait des cachets d'iode. C'est un petit peu courant, donc ça, voilà, on ne sait pas, quoi. On ne sait vraiment pas. Même nous, quand on l'attrape, on ne sait vraiment pas où est-ce qu'on l'a attrapé.
Et la médecine du travail était alertée, donc si quelque chose se déclarait, je ne sais pas, hein, parce qu'on ne sait pas ce que ça donne vraiment.
Bien sûr, bien sûr.
Est-ce que ça serait considéré comme une maladie du travail ?
Non, du tout. Non, du tout. Comme je vous dis, on nous met à l'extérieur justement pour faire le cumul de tout ça, quoi. Voilà, tout simplement.
C'est avant risque et péril, quoi.
Exactement. Il n'y a pas de prime, il n'y a pas d'accident de travail, il n'y a pas d'arrêt maladie à ce niveau-là. Quoi. Non, il n'y en a pas.
97 personnes ont été contaminées par de la poussière radioactive à des doses jugées toutefois dérisoires après consultation médicale.
De toute manière, tous ces gens seront revus, sont déjà revus aujourd'hui et seront revus demain pour surveiller l'élimination par les voies naturelles de cette micro-contamination, je dis bien micro, qui n'aura aucune incidence sanitaire chez ces personnes.
Les résultats des consultations médicales ont rassuré les personnels, mais le discours sécuritaire de la direction est rejeté par les scientifiques indépendants de la CRIRAD. Eux refusent la notion de risque sanitaire zéro.
Bon ben, en face de moi, le site nucléaire du Tricastin avec deux magnifiques cheminées, avec leur panache de vapeur d'eau, leur panache blanc de vapeur d'eau. Mais toujours pas d'autorisation pour rentrer ou pour rencontrer quelqu'un qui pourrait me parler de l'incident du 23 juillet 2008, pendant lequel une centaine d'ouvriers ont été contaminés. Donc pour tuer le temps, bah, je vais aller visiter juste en face, ici dans un terrain, un vaste terrain qui ressemble à un parc d'attractions, la ferme des crocodiles. Alors qu'est-ce que c'est que la ferme des crocodiles ? C'est une ferme qui, en partenariat avec Areva, donc... exploite cette serre tropicale où vivent des crocodiles, semble-t-il. Allons voir comment se portent les crocodiles.
Alors, sans doute, une fois de plus, là-bas, si j'y suis, est à l'avant-garde. Est à l'avant-garde, ça fait des années qu'on est à l'avant-garde d'un tas de choses, d'idées, de sujets, etc. Mais là, avec le réchauffement, il serait possible qu'on soit une fois de plus à l'avant-garde avec ces crocodiles qui vivent... dans ce climat qui leur est favorable. Là, c'est les eaux chaudes du Tricastin, de la centrale du Tricastin. Alors, c'est quand même, ça pose un petit problème, parce que nous, on veut vous informer. Et voilà, et c'est pour ça que Antoine Chao est là, c'est pour vous informer, pour essayer de comprendre. Et qu'est-ce qu'il fait pour essayer de vous informer ? Ben, c'est de s'informer lui-même, auprès de la direction. Il a des questions à poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des risques? Regardez, quelqu'un comme Mohamed, avec qui on vient de parler, ce nomade, ça s'appelle comme ça. Les nomades du nucléaire, ils sont assez nombreux en France. Est-ce que ce gars-là court des risques? Qu'est-ce qui peut lui arriver par la suite? C'est des questions qui semblent... Ça fait pas de vous un fou de merde de poser des questions comme ça. Eh ben si. C'est bien si, c'est des questions qui se posent pas, puisqu'il n'y a personne pour y répondre. Alors il y a comme un espèce une sorte d'effet d'opacité, si vous voulez, qui expliquerait peut-être le manque de confiance des citoyens que nous sommes envers le nucléaire dans notre beau pays. Est-ce qu'on a confiance dans les crocodiles? Voyons.
Alors, vous pouvez me présenter un peu, déjà, c'est cette ferme, c'est municipal,
C'est une société qui a été montée en 94. Donc, c'est parti d'un projet, du projet d'un terrariophile, passionné de reptiles, qui a eu envie de présenter et de démystifier un petit peu les crocodiliens en venant ici dans la Drôme, en présentant ici plus de 300 crocodiles et éventuellement, par la suite, servir pour la science, pour la recherche scientifique.
Alors, je ne vais rien vous cacher. Moi, normalement, je voulais visiter le site nucléaire de Tricastin, mais en ce moment, je crois qu'il y a quelques problèmes.
Un peu difficile, oui. Hein,
voilà. Mm-hmm. Donc, pour ne pas rentrer bredouille, je vais essayer de faire quelques reportages autour de la centrale. Donc là, comme vous avez quand même une activité, je dirais, connexe, on va dire, donc on va en profiter, on va faire un petit tour hein, ouais, si ça ne vous dérange pas.
Très rapidement. Pas de problème.
J'ai cru comprendre qu'il y avait une synergie avec les eaux chaudes rejetées par la centrale.
Voilà, c'est-à-dire que nous récupérons les eaux chaudes permettent de nous chauffer, nous, notre circuit. Ça s'inscrit dans une dynamique de développement durable. Cette eau chaude, au lieu d'être rejetée dans le Rhône, on peut l'utiliser, nous, ici, de manière à recréer un environnement tropical.
Vous avez combien d'espèces de crocodiles différentes ?
Nous, on présente 9 espèces.
Et sinon, pour les crocodiles, il n'y a pas eu d'effets collatéraux des...
Aucunement. Ça n'a pas touché. Nous, c'était, je crois que on n'a pas été tout à fait au courant exactement de ce qui s'est passé, mais les fuites qu'ils ont eues, ça n'a eu aucun impact déjà parce qu'on est en amont. et ensuite parce que ça, c'est sur des circuits qui n'ont aucun rapport avec les nôtres.
Alors les conditions sont complètement recréées, non? Parce que vous manquez pas d'eau chaude, j'imagine, avec
on manque, non, on manque pas d'eau chaude. Enfin, donc ces eaux chaudes qui nous permettent nous, de chauffer notre eau à nous. On a les bassins qui sont chauffés, on a la serre qui est chauffée.
Et quand vous disiez que vous étiez en amont, c'est-à-dire donc il n'y avait aucun danger pour les
pour les animaux, aucun danger.
Parce que vous êtes en amont de quoi, je comprends pas.
Bah, du circuit, dans le sens dans lequel ça a été, dans le sens de l'écoulement, dans le sens du bassin versant.
D'accord.
Bonjour, bienvenue chez EDF, centre nucléaire de production d'électricité de Tricastin. Merci de rester en ligne, nous allons donner suite à votre appel.
Veuillez nous acquitter. Oui, son poste ne répond pas, je lui laisse un message.
Ah oui, c'est gentil, oui.
D'accord,
c'est bien. Oui, bah, oui, parce que j'attends là, déjà depuis quelques jours.
D'accord.
Donc c'est au sujet des 97 employés, vous savez, qui ont été contaminés le 23 juillet, voilà.
D'accord.
Donc je voulais voir le médecin, elle m'avait proposé de voir le médecin du travail.
Mm-hmm.
Donc pour l'instant j'ai pu voir que la ferme des crocodiles, donc les crocodiles vont bien. Mais bon, ça va pas rassurer nos auditeurs de France Inter, quoi.
Ouais.
Vous
d'accord,
comprenez?
Écoutez, je demande de voir,
ouais, oui.
Elle revient.
J'aimerais bien, oui.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, vous avez vu ce qu'on veut faire, nous, c'est vous rassurer. C'est vous rassurer, mais c'est pas facile. Alors on va quand même essayer d'en savoir un petit peu plus. Avec Virginie Neumeyer de la CGT, qui elle aussi fut dans sa vie nomade, une nomade du nucléaire, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui, et ce qui lui permet de nous donner quelques éclairages. Virginie Neumeyer.
Virginie Neumeyer, vous êtes secrétaire générale CGT à la centrale EDF du Tricastin. Vous êtes très sollicitée en ce moment parce que vous êtes en retour d'expérience, c'est ça que vous m'avez expliqué au téléphone?
Donc hier, nous avons, à notre demande, à la demande de la CGT, été un retour d'expérience sur l'incident qui s'est passé tranche 4 cet été, le 23 juillet sur Tricastin, où à peu près 80 salariés ont été soumis à une contamination interne. Et ce qui était posé par la CGT, c'est un suivi de ces salariés-là, un suivi médical, puisque à la fois des agents EDF, mais à la fois des agents prestataires qui évoluent sur d'autres sites, qui n'ont pas de rapport très proche avec leur maintien de travail, se posent des questions, et notamment sur les effets que pourraient déclencher les faibles doses auxquelles ils ont été soumis à moyen terme ou à plus long terme.
Pour ces 80, on va parler de ce cas-là, est-ce que les 80 personnes qui ont été contaminées sont déclarées comme accidentées du travail?
On ne peut pas, au sens aujourd'hui de la réglementation, parler d'accident de travail. Pourtant, cet incident n'aurait pas dû se passer.
Alors s'il n'y a pas d'accident de travail, ça veut dire que la contamination fait partie du travail?
Non. L'acceptabilité du risque nucléaire, donc, est un compromis avec l'ensemble de la population. L'analyse qu'a portée la CGT en CHSCT est que les arrêts de tranche, c'est-à-dire les travaux pour maintenance, sont tellement courts, les objectifs de rentabilité sont tellement forts, hauts, que les salariés, quand ils commencent leurs travaux, doivent être amenés à le terminer dans une durée tellement peu importante que ça ne leur permet pas de travailler dans de bonnes conditions. Donc cet incident n'aurait jamais dû avoir lieu si on avait pris en compte ce qu'on portait en termes de temps nécessaire à l'intervention et de moyens.
Alors là, par exemple, c'est ces crocodiles là.
Alors là, vous êtes devant le faux gabiole africain, Crocodilus cataphractus, Centrafrique.
Alors pour vous installer ici, vous avez eu des subventions ou une aide, j'imagine, de la municipalité de Pierrelatte, parce que ça humanise quand même, bon, même si c'est des crocodiles, ça humanise un peu le secteur, quoi. On est quand même au pied de la centrale, c'est pas très réjouissant en général comme panorama. Mm-hmm. Et là, de pouvoir avoir des activités, j'ai vu qu'il y avait aussi une ferme au parfum, c'est ça, à côté?
C'est une parfumerie, qui s'est installée, d'accord, il y a quelque temps.
Et des jeux pour enfants, etc. Donc, mm-hmm. Et c'est une première dans le monde, alors, cette synergie avec une centrale sur comme ça, une serre tropicale?
Je pense que oui, qu'on est les seuls à récupérer ces eaux du circuit secondaire, oui. Je crois.
Alors, vous me présentez une autre espèce, peut-être?
Ce que vous disiez, c'est l'alligator de Chine. C'est une espèce extrêmement protégée, qui est en annexe 1 de ce qu'on appelle la Convention de Washington. C'est des animaux qui sont, de mon point de vue, jolis. C'est très objectif.
Ouais, ça me dépasse un peu, j'y connais pas grand-chose en crocodile. Ouais.
subjectif.
Ah bon, j'essaye de faire un peu le lien de façon laborieuse avec la centrale parce que c'est le sujet de mon reportage.
Voilà, c'était votre sujet principal.
Là, il y a beaucoup d'intérimaires et de ce qu'on appelle les nomades du nucléaire qui vont de centrale en centrale. Est-ce qu'ils en profitent quand ils viennent ici justement pour venir visiter les crocodiles et...
Ils ne se présentent pas en tant que travailleur enfin, ou en tant qu'employé. Donc je ne pense pas qu'on puisse vous quantifier exactement combien d'employés de la centrale est venu ici. Mais je pense
qu'il n'y a pas des accords comme ça, des entrées
Je pense qu'il doit y avoir un système comme ça, oui. Où on remercie un petit peu ce partenariat entre la centrale et la ferme aux crocodiles.
C'est impressionnant ces crocodiles quand même. Hein. Il y a un petit jeu, si vous visitez la ferme crocodile, on vous demande « Draw a circle around the different things crocodile like to eat ». C'est-à-dire, entoure ce que mange le crocodile. Alors, vous devez choisir qu'est-ce qu'il mange le crocodile. Alors, il mange du poisson, non ? Des fleurs, bon, des oiseaux, des gâteaux, de la glace, des citrons verts. Des feuilles ou alors des grenouilles ou alors des poulets. Voilà. C'est marrant, hein, c'est rigolo. Voilà. Alors pendant ce temps-là, le reportage n'avance pas, monsieur Chao.
La CGT, depuis de très nombreuses années, depuis que EDF externalise les activités et sous-traite aussi donc les problèmes afférents aux salariés, c'est-à-dire les conditions d'intervention, les conditions de travail, les accidents de travail aussi sont sous-traités.
C'est-à-dire
EDF met les contraintes sur des PME ou des TPE parfois, des très petites entreprises, et les contraint effectivement à réduire le nombre d'intervenants nécessaires à effectuer une opération de maintenance. Aujourd'hui, la CGT travaille à ces questions-là. Comment on peut justement suivre les salariés, on va dire nomades, puisque là, on est en recul depuis plusieurs années sur ces questions-là de garantie sociale et de transférabilité des droits, d'avoir une véritable évolution de carrière et même de conditions de travail, de vie au travail décente.
Alors là, vous préparez la distribution d'un tract, c'est un tract en interne pour les employés.
Donc le 7 octobre, à l'initiative du comité syndical international, un certain nombre d'organisations syndicales, dont la CGT, appellent à revendiquer dans toutes les entreprises de France sur qu'est aujourd'hui le travail décent. La question se pose d'autant plus ou de la même façon dans le secteur du nucléaire que dans le secteur, par exemple, de l'aéronautique. On voit un certain nombre aussi de dysfonctionnements sur des travaux de maintenance. Mais elle se pose, effectivement, pour ce que je connais le mieux dans le nucléaire.
Alors, vous parlez de dysfonctionnement.
Effectivement, le travail doit être effectué dans le nucléaire, puisqu'il y a un risque qui n'existe pas sur d'autres industries, dans des conditions optimales. Et quand effectivement, les équipes sont sous-dimensionnées, que des projets de services ne visent qu'à réduire le nombre d'emplois, au lieu de travailler sur les questions de fond, comme les questions de renouvellement des compétences, de formation, pour justement exploiter dans des conditions optimales notre centrale nucléaire.
Alors, sur le site du Tricastin, combien d'employés EDF et combien de sous-traitants, comme ça, en moyenne ?
Donc aujourd'hui, 1200 salariés EDF statutaires sont employés sur le site, 500 salariés permanents qui travaillent toute l'année sur des travaux effectués tout au long de l'année, et environ sur les arrêts de tranche, c'est très fluctuant, hein, on en peut avoir entre 500 et 1000 salariés qui traversent le site EDF comme les sites Areva.
Donc là, c'est 8 individus qui nous ont été prêtés par la ferme, le reptilarium du Mont-Saint-Michel.
D'accord. Donc il n'y a aucun danger pour les crocodiles.
Non.
D'accord.
Non.
Est-ce que du coup, ils sont venus faire ici des prélèvements pour laver tout doute possible ? D'accord.
Ça a été fait.
D'accord.
Ça a été fait. Je ne sais pas les résultats, mais ça a été fait.
Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Je sais pas trop, moi je suis un peu...
Oui, c'est vrai que si votre sujet à vous, c'était le nucléaire, là, vous n'êtes pas du tout dans le,
ouais,
dans le nucléaire.
Non, mais ça, il y a eu des cas déjà d'irradiation ou alors d'empoisonnement des crocodiles. On ne sait pas s'ils ont une résistance particulière.
Après, il n'y a pas d'études qui ont été faites sur la résistance des crocodiliens au rayonnement ionisant. Après, ici, c'est pas le but. On n'est pas venu ici implanter. On se sert pas des eaux du Tricastin pour mettre en évidence une corrélation entre se baigner, que les crocodiliens se baignent dans une eau qui vient d'eux et un réel facteur influençant sur leur écologie à eux, sur leur biologie à eux.
Sinon, vous parlez d'un partenariat scientifique, mais pas sur ce sujet-là.
Ah non, rien à voir. C'est vraiment sur le l'écologie et la physiologie des crocodiliens. Ça reste de l'écologie.
Alors, on nous a parlé des salariés d'EDF, ceux qui sont les permanents, les salariés qui sont environ au total 1700, mais il y a ceux qui traversent, c'est-à-dire les intérimaires, c'est-à-dire ces fameux nomades. Alors, dans quelles conditions travaillent-ils exactement ? C'est très flou, tout ça, c'est très vague, on l'a vu au début de ce reportage avec Mohamed. Voilà quelqu'un dont je ne peux pas dire le nom parce qu'il a préféré rester anonyme. Ça dit tout sur les risques et les risques aussi de perdre son boulot, mais qui a tenu quand même à témoigner.
Alors, j'ai toujours pas eu de réponse pour pouvoir aller visiter la centrale EDF du Tricastin. Donc moi qui voulais avoir des nouvelles sur les ouvriers qui ont subi cet incident, on va dire, hein, du 23 juillet. Alors peut-être que vous qui travaillez sur le site, vous pouvez me donner quelques informations et vous vous tenez très au courant. Donc vous avez eu un peu une revue de presse hein, de comment Areva et EDF voient la chose. Le Dauphiné libéré, daté du 31 janvier 2008, les vœux d'Areva, d'EDF et du CEA, le nucléaire se porte bien.
Ah oui, bien sûr, ouais. Se porte bien. Aujourd'hui, le réchauffement climatique qui fait que l'industrie nucléaire se veut une industrie propre, qui ne dégage pas de gaz à effet de serre, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a le problème des déchets et surtout le problème des salariés, des hommes et des femmes qui travaillent sur ces installations. Et aujourd'hui, les conditions ne sont plus acceptables, quoi. On ne peut plus faire des activités en sécurité, en garantissant la sûreté et en faisant de la qualité. C'est quand même trois critères qui sont importants. Cette situation fait qu'aujourd'hui, on a des événements, des petits incidents, des accidents. C'est des choses qui ne se voyaient pas il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, EDF fait des appels d'offres à des prestataires extérieurs. EDF ne choisira jamais le dernier de la liste, le plus bas prix, mais il prendra l'avant-dernier. On regarde le tarif, et puis tant pis si ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Une équipe de 8, si je ne peux en mettre que 4, ça sera très bien. Donc des gens qui ne sont pas qualifiés, des gens qui débarquent dans l'industrie, ils ont fini leur formation le vendredi, et puis le lundi, ils attaquent sur un CNPE, quoi. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des intervenants qui manquent d'expérience, surtout. Et quand ils sont livrés à eux-mêmes, c'est là qu'on encourt de grosses déconvenues, quoi. D'accidents, de problèmes de contamination, de sûreté. Enfin, il y a après beaucoup de choses qui rentrent en compte, quoi. Il faut savoir que EDF, tous les 3 ans, donc, fait une appel d'offres. Et donc, les entreprises qui ont le marché pour 3 ans ne savent pas si ça va être reconduit. Donc, ce ne sont plus des CDI, mais on va dire que ce sont des contrats de 3 ans. Et au bout de 3 ans, vous perdez le marché. C'est une autre entreprise qui revient. Donc, souvent, malheureusement, les acquis que l'on peut avoir, ils sont perdus. Et puis, l'entreprise, bien sûr, vu qu'elle a cassé les prix, vos conditions de travail, vos conditions de rémunération sont revues à la baisse. Donc, c'est toujours le salarié qui est en bas de l'échelle, bien sûr, celui qui va travailler le week-end, qui va faire des activités à risque, des décomptes de piscine, pas dans des conditions optimisées pour que ce soit en garantissant la sûreté et en faisant de la qualité. Donc les activités, vous vous retrouvez à 4. Sur les 4, vous avez 2 CDD, un intérimaire et qu'un salarié CDI. À un moment donné, inévitablement, en voulant faire trop d'économies, on va bafouer la sûreté. L'environnement, les installations nucléaires aujourd'hui se dégradent, elles vieillissent. Hein, et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est inquiétant, parce que aujourd'hui, il laisse un petit peu partir à la dérive. Les populations aussi aux alentours, à un moment donné, risquent de le payer le prix fort. et il y aura quelque chose de plus important que ce qu'il y a actuellement, quoi. Même si déjà, c'est grave. Les incidents de Socatrie, juste avant la découverte de 15 tonnes de déchets enfouis dans des tumulus de terre, des déchets qui sont enfouis à même le sol. Et puis après, on apprend que les nappes d'eau sont contaminées, que des zones, on ne peut plus pêcher, on ne peut plus boire de l'eau pendant une certaine période, parce que les prélèvements que l'on fait montrent des taux de radioactivité qui sont anormales. Et cette situation ne peut pas durer, quoi.
Et vous travaillez depuis combien de temps dans le secteur ?
Alors moi, ça fait 18 ans, et c'est vrai que je ne me plais plus dans mon travail. Je commence même des fois à avoir peur des situations dans lesquelles on peut se trouver. Et c'est pour ça que je veux témoigner aujourd'hui pour alerter un petit peu nos politiques, les gens qui peuvent décider, parce que ce qui est en train de se passer est vraiment anormal. Et nous allons au-devant de gros problèmes, de gros pépins. Et puis là, une fois que l'incident aura eu lieu, il sera trop tard pour agir. Aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est grave.
Et bon, dernière question. Hein. Et donc, j'imagine que dans un secteur comme ça, si proche du nucléaire, pour les habitants, il y a des consignes de sécurité, il y a des fois des...
On a des procédures, Alors, bien sûr.
Pour les crocodiles.
Pour les crocodiles, oui. Enfin, ce sont des procédures de confinement, de la même manière que pour les individus humains. La seule différence, c'est que nous, on va pas faire un recensement des crocodiles, on va pas s'amuser à descendre dans les bassins. C'est simplement, nous, déjà, on a aucun animal qui est dehors. On n'est pas en extérieur.
Ils sont déjà un peu protégés.
Donc déjà, ils vont rester dans ce qu'on appelle l'espace de confinement. Et puis voilà, non, pour les crocodiles, il n'y a pas de...
Et j'imagine qu'il y a un procédé aussi pour couper l'alimentation d'eau s'il y avait un accident majeur.
D'accord. Tout à fait.
C'est prévu, ça.
Sur un bouton, on arrive, tac, et c'est terminé.
D'accord. C'est jamais arrivé encore.
Non.
Là, cet été, vous n'avez pas eu à couper.
Pas que je sache.
D'accord. Alors là, pour revenir sur ce qu'ils appellent l'incident du 23 juillet...
Oui.
Donc il y a eu une centaine, c'est ça, d'ouvriers qui ont été contaminés, d'intervenants.
Alors les chiffres, oui, parce que bien sûr, heureusement, on sait les gens qui interviennent en zone contrôlée, ils sont comptabilisés. Donc on sait exactement qui était présent, malheureusement, ce jour-là, de l'incident. Donc sur toutes les personnes qui ont passé des entrepôts gammamétriques et de contrôle de contamination interne, certains d'entre eux étaient au-dessus des seuils, d'autres étaient en dessous des seuils. Et puis les gens ont repris leur travail, on va dire, comme si de rien n'était. Parce que, bien sûr, les communiqués médecine du travail EDF, et puis de la direction EDF, tout simplement, de dire qu'ils appellent ça une micro-contamination. C'est vrai que c'est inférieur au seuil annuel, mais est-ce que l'on peut être sûr que dans 15, 20 ans, les gens n'auront pas de séquelles de cet incident, de ce fameux jour du 23 juillet ? Aujourd'hui, avec beaucoup de questions qui restent quand même en suspens, côté médical, parce que donc une contamination interne, inévitablement, ça ne peut avoir que des conséquences. Il y a des seuils dosimétriques, donc il faut savoir aussi que la France a été le dernier pays nucléaire à ratifier les seuils. Il y a quelques années, on parlait en REM, on avait un avoir, on va dire, de 5 REM, une dosimétrie de 5 REM, ça a été baissé. Et puis donc tous les pays qui étaient nucléarisés ont baissé ces seuils et la France a été le dernier à ratifier, il y a quelques 5 ans je crois maintenant, un seuil de dosimétrie qui est de 20 millisieverts à l'année. Alors, aujourd'hui le salaire non plus n'est pas motivant, hein. On prend au SMIC dans le nucléaire, on travaille en 3-8, on démarre une campagne, on ne sait pas quand elle s'arrête. Le cas est à Tricastin où il y a encore deux tranches qui sont en arrêt. Et un incident qui est assez sérieux quand même sur la tranche 2. Deux éléments combustibles qui sont suspendus et qui risquent de tomber. Donc c'est une première mondiale. Il y a eu une similitude en 99 à Nogent. Il y a un élément combustible qui est resté accroché. Et Tricastin, malheureusement, nous avons deux éléments et ça sera donc une première. Et ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas une situation normale.
Est-ce qu'on appelle les nomades du nucléaire alors ?
Ils démarrent la campagne au mois de février. Et puis la termine au mois de octobre, novembre. Ils font tous les 19 centrales. Quand on les entend parler, qu'ils nous racontent des problèmes rencontrés sur d'autres installations, on se dit qu'aujourd'hui, le parc EDF ne se porte pas bien. Et ça inquiète, c'est inquiétant. Je suis un citoyen avant tout. Il y a 40 ans, on ne m'a pas demandé mon avis pour faire du nucléaire. Il faudrait bien que ça se déroule dans de bonnes conditions, pas n'importe comment, pas faire n'importe quoi non plus. Le marché, par exemple, de Cruas qui a été perdu en fin d'année 2008, c'était la CIM qui le gérait. Là, c'est Essor qui a repris le marché à janvier 2008. Ce sont des prestataires qui appartiennent à d'autres groupes. Endel, avec Bouygues. Le nucléaire attire pas mal d'entreprises, des grands groupes. Notre situation, nos conditions de travail et nos conditions de vie deviennent difficiles.
Alors, c'est quoi le salaire d'un intérimaire ou d'un prestataire du nucléaire ?
C'est le SMIC.
Il n'y a pas de prime de risque de...
Des primes viennent se greffer en fonction de l'intervention. Les personnes qui vont travailler avec une tenue murue, par exemple, vont avoir une prime de tenue murue.
Alors, la tenue murue ROA, c'est ça ?
C'est ça. Une tenue qui est ventilée. Les gens qui vont porter que le homme, il y a des primes. Les décomptes à piscine... On va pointer une prime de tenue murue parce que les gens interviennent en tenue murue et puis ça suffit quoi.
Et c'est de quelle heure dans cette prime ?
12 euros.
Par jour ?
Oui.
Alors. Sur la route vers Valence, National 7, il y a un gros camion devant moi que je vais doubler parce que il y a un des prestataires du site du Tricastin qui m'expliquait que les containers qui sortent du site de Tricastin ne sont pas forcément bien décontaminés. Donc il pourrait y avoir des poussières radioactives qui tombent du toit de ces containers et qui pourraient contaminer donc les automobilistes. Quoi. Alors j'ai bien fermé ma fenêtre, j'ai coupé l'aération, je suis dans la voiture, j'ai doublé, je mets mon clignotant, je double le container et j'espère que tout va bien se passer. Donc c'est pas grand chose, il suffirait de deux petits escabeaux pour... que la radioprotection puisse accéder au toit du conteneur et vérifie qu'il ne soit pas contaminé. Voilà. Bon. C'est des petites négligences comme ça. C'est la cascade des sous-traitants qui fait que la responsabilité est diluée et les risques sont supportés par les petites mains, les DATR, ceux qui sont directement affectés aux travaux sous rayonnement. Cela y trinque. Pendant que EDF, SA, s'il vous plaît, société anonyme, puisse se lancer dans la conquête du monde, rachète British Energy, s'installe partout dans le monde et devienne un des opérateurs leaders de l'énergie dans le monde. Tant pis pour les bêtes à REM, on vous dira des petites doses, rien que des petites doses. Autant de petits trous dans les cellules, des petits trous dans la viande.
Voilà, c'était un reportage d'Antoine Chao. Merci à Michel Allier et à Annie Thébault-Moni. À lire « Travailler peut nuire gravement à votre santé » d'Annie Thébault-Moni aux éditions de La Découverte. À noter que la CRIRAD tire la sonnette d'alarme en permanence, mais là, notamment en ce qui concerne les contaminations accidentelles qui ne sont pas, selon la CRIRAD, des événements anodins et doivent être déclarés comme accident du travail. Et puis le réseau Sortir du nucléaire ne lâche pas l'affaire. L'évacuation des communes proches du Tricastin est-elle et envisagée par les autorités ? C'est la question qui est posée par Sortir du nucléaire. On voit que ça n'arrête pas. Je vous invite à consulter leur site, Sortir du nucléaire, et également le site de Greenpeace, et également le site de développement durable qui présente des informations très précieuses. Et puis nous vous signalons que samedi 25 octobre, le collectif anti-nucléaire, mais ça c'était samedi dernier, a organisé une marche pour le respect de la vie, Tricastin, Bolène, Allée Simple. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Lidvine Caron et Antoine Vieussa. C'est Koyen Guyen et Raphaël Moutia qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et c'est Agnès Lebot qui désormais attend vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis, dont le numéro, vous le savez par cœur, est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.